France Culture. France Culture la nuit, une mémoire radiophonique.
Hemingway, Dos Passos, Faulkner, Steinbeck, Capote, Flannery O'Connor, William Goyen, Styron et beaucoup d'autres. C'est à Maurice Edgar Coindreau, qui fut dès les années 30 le grand passeur et traducteur de la littérature américaine, que l'on doit de les avoir découverts en France. Au point qu'en 1948, Sartre pouvait déclarer « La littérature américaine, c'est la littérature Coindreau ». Que voulait dire Sartre ? Selon Michel Gresset, autre grand traducteur de la littérature américaine, simplement qu'il ne lisait pas l'anglais. Pour François Bon, s'exprimant à l'occasion du centenaire de la naissance de Faulkner, ce qu'a réussi à distendre Coindreau pour nous ramener la langue de Faulkner, c'est tirer notre langue vers moins de sujets, lui imposer cette ellipse de la présence des choses dans le bain de la langue. On comprend, longtemps après, l'immense dette. En fêtant Faulkner, gardons près de nous, pour l'hommage, son premier traducteur, Maurice Edgar Coindreau. En 1971, sur France Culture, Maurice Edgar Coindreau parlait de William Faulkner avec Christian Giudicelli.
Maurice Edgar Coindreau, lors de notre premier entretien, vous nous avez mené en compagnie de Faulkner jusqu'à son prix Nobel. Mais vous l'avez rencontré encore après.
Oui, je l'ai rencontré après, comme il faisait des entretiens avec les étudiants, et que son éditeur dans le sens américain, qui s'appelait Saxe Cummings, qui était un homme très intelligent, qui le comprenait très bien, et qui savait très bien ce qu'il fallait faire, ce qu'il ne fallait pas faire, qui lui a évité des quantités de corvées et qui chassait des importants avec beaucoup de subtilité et d'adresse. Et lui, je le connaissais très bien. Je savais que, à plusieurs reprises, Faulkner avait passé par Princeton, avait passé quelques jours chez lui parce que Saxe Cummings me le disait, et il ne m'avait ni téléphoné, il était passé tout à fait incognito, chose qui non seulement ne me froissait pas, mais ne m'étonnait même pas, parce que je trouvais ça absolument naturel. Et un jour, Saxe Cummings m'a téléphoné en me disant que Faulkner était arrivé de la veille, qu'il voudrait me voir et qu'il aimerait beaucoup avoir une de mes traductions.
Ça vous a intrigué?
Ça m'a beaucoup intrigué. Et j'ai demandé à Saxe Cummings, mais laquelle? Il m'a dit, oh, Faulkner, ça lui est égal. N'importe laquelle, une de vos traductions. Alors heureusement, j'avais un exemplaire de Lumière Doux, dans une de ces éditions cartonnées que faisait la Maison Gallimard à cette époque, qui s'appelait, je crois, Relure d'éditeur, enfin c'était assez joli. Et le lendemain matin, je suis allé chez Saxe Cummings, Faulkner était là, qui m'a reçu comme si nous nous étions vus la veille. Et je lui ai remis ce livre, je lui ai dit, écoutez, je suis très intrigué, pourquoi voulez-vous une traduction? Et il m'a dit, c'est parce que je suis en route vers Pine Manor, qui est le grand collège où sa fille terminait ses études. Et alors, il y a une cérémonie de remise des diplômes, etc. Et sa fille lui a fait écrit qu'elle avait cru comprendre que la doyenne aimerait beaucoup avoir un livre de Faulkner signé. Et alors, je lui ai dit, tout naturellement, pourquoi ne lui donnez-vous pas un exemplaire original, enfin, dans la langue? Il m'a dit, je vais vous dire pourquoi. C'est parce qu'elle est non seulement doyenne, mais elle est professeure de français. Et alors, j'ai pensé qu'en lui donnant un livre écrit par moi, mais dans la langue qu'elle enseigne, cela lui ferait plus plaisir.
C'est une très grande délicatesse.
C'est pour vous montrer la délicatesse de cet homme. Je ne sais pas du reste si c'était très bonne psychologie. Je crois que la dame aurait préféré l'avoir dans le texte original. Mais enfin, l'intention était extrêmement délicate. Et alors là, nous avons pris un whisky ensemble. Je suis resté, environ 2 heures. Puis, peut-être 1 an ou 2 ans après, Saxe Cummings est mort. Et la dernière fois que j'ai revu Faulkner, c'était un passage où il venait de New York, où il y allait. Je ne sais pas, il s'était arrêté pour voir la veuve de son éditeur. Et elle m'a téléphoné pour me demander de venir dîner avec lui. Nous étions arrivés avant le dîner. Il y avait pas mal de vieilles dames qui étaient là. Je crois qu'il s'ennuyait un peu. Il a eu l'air d'être très content de voir quelqu'un avec qui il pourrait échanger d'autres remarques.
Que des politesses.
Du reste, il ne se fatiguait pas beaucoup pour cela. Il restait bien tranquille dans son coin, sans bouger, sans parler. Je lui ai dit tout ce que je lui devais. Il m'a dit que lui-même devait beaucoup. Enfin, je lui ai dit, vous savez, vous êtes un auteur très difficile à traduire. Je puis vous avouer que chaque fois que j'ai traduit un de vos livres, j'ai toujours eu conscience que je vous trahissais et que je ne vous rendais pas justice. Et c'est là où il m'a dit, mais pourquoi Pourquoi vous préoccupez de cela? S'il y avait des choses difficiles, eh bien, vous n'aviez qu'à les laisser, puis passer.
C'est extraordinaire comme réaction.
Une réaction extraordinaire.
Les écrivains étant si soucieux d'ordinaire de leur virgule.
Justement, contre Dieu. Il m'a dit, mais pas du tout, parce que quand j'ai écrit un ouvrage et que je le considère comme terminé, je l'envoie à mon éditeur, il ne m'appartient plus du tout.
Oui, mais ça pouvait être dangereux.
Ah, ça aurait pu être dangereux.
Je crois qu'il y a eu des éditions de Faulkner, justement, aux États-Unis. Maintenant, et des coupures.
Les érudits qui travaillent. Ah, il y a eu des coupures sérieuses, oui, par exemple.
Et Faulkner ne s'en préoccupait pas.
Non, rien du tout. Il me l'a répété plusieurs fois, il m'a dit, mais non, mais un ouvrage écrit est écrit, il appartient après à mes lecteurs, il m'appartient au public, et le public peut en faire ce qu'il veut. Je n'ai absolument rien à voir à dire. La seule chose que je fais quand un ouvrage est terminé, j'en commence un autre. Je lui dis, mais les adaptations cinématographiques de vos œuvres, qui étaient des choses incroyables, n'est-ce pas, avec des dénouements heureux, je dis, vous n'avez jamais même protesté. Alors il m'a dit avec un petit sourire, je ne les ai jamais vus. Alors je ne peux pas protester.
Mais à l'issue des conversations que vous avez eues avec lui, est-ce que vous avez l'impression qu'il avait des livres de lui qu'il préférait?
Ah oui, sûrement. Je suis à peu près certain que le livre qu'il préférait était Le bruit et la fureur.
Est-ce que vous avez aussi l'impression qu'il se savait un très grand écrivain?
Ça, je ne sais pas. Il était trop modeste pour le dire. Et comme il ne jouait pas le rôle du grand écrivain et qu'il était resté toujours ce petit homme un peu effacé, rêveur, perdu dans un monde entièrement différent de celui où nous sommes.
Et c'est un monde terrible, le monde de Faulkner.
C'est un monde terrible.
Vous notez dans la préface que vous avez faite pour Lumière Doux que Faulkner, vous avez écrit un jour et vous avez dit « Je suis un puritain, mais au bon sens du mot ». Et je me demande si ça n'éclaire pas d'un jour assez particulier toute son œuvre.
Oui, certainement. C'est une phrase qui est, je crois, dans la seconde lettre qu'il m'a écrite. Quand il me remerciait d'une rose pour Émilie ou peut-être bien... Peut-être bien du bruit de la fureur. Ma foi, je ne me rappelle plus exactement.
Ce qui explique effectivement cette espèce de drame perpétuel des grands personnages faulkneriens qui sont finalement combattus par cette espèce de puritanisme en eux, puritanisme qui les entraîne soit vers la folie, soit vers le crime.
Oui, bien sûr.
Et vous, personnellement, Maurice-Edgar Coindreau, quels sont les livres de Faulkner que vous préférez?
Ah, voilà quelque chose qui est difficile à dire. Je crois que celui que je préfère est Le bruit et la fureur, peut-être parce que c'est celui qui m'a donné le plus de travail. Une histoire comme Une rose pour Émilie, c'est quelque chose d'une perfection telle que... On pourrait dire presque que c'est peut-être une des meilleures choses qu'il a faites.
Je crois que...
Je pourrais vous dire ceux que j'aime le moins. Pylône, par exemple. Ah, c'est très difficile à dire. Tandis que J'agonise, c'est une magnificence. Enfin, ces petits monologues intérieurs de 20 à 25 lignes lui suffisent pour faire surgir le caractère du personnage avec une telle sûreté, une telle clarté.
Justement, ces monologues intérieurs qui frôlent par moments une sorte d'hystérie et qui vont si profond dans l'âme des personnages de Faulkner, c'est une technique malgré tout qui était très nouvelle aux États-Unis à ce moment-là. Et est-ce que, à votre avis, cette forme de Faulkner a été beaucoup imitée par la suite?
Oui, on a essayé de faire du faux Faulkner après. Il y a eu tout un tas de jeunes écrivains, notamment, qui se sont lancés à faire des choses qui ressemblaient à du mauvais Faulkner. Il a été imité.
Mais je crois que Faulkner doit rester, pour le jeune écrivain américain actuel, la grande ombre qui est même un peu menaçante, qui doit être un peu oppressante, non? Peut-être pas.
Pas pour un homme comme Hemingway, par exemple. Oui. Vous savez ce qu'Hemingway a répondu? Quand on lui demandait « Que pensez-vous de Faulkner ?» Il a dit « Oh, beaucoup de grands mots ». Alors je crois que l'ombre de Faulkner ne l'a jamais beaucoup préoccupé. Non, ils ont peur de lui. Par exemple, William Styron m'a dit qu'il a écrit « La marche de nuit » pour se désintoxiquer de l'influence de Faulkner qui est évidente dans « Le nid de ténèbres », dans son premier roman. Les jeunes écrivains du Sud actuellement en ont peur. Pour eux, c'est le dieu, c'est celui qui a mis la littérature du Sud sur le pavois. Et quand j'ai demandé à William Goyen si Faulkner avait eu beaucoup d'influence sur lui, il m'a dit qu'il aurait pu en avoir, mais j'ai tellement peur de lui que je le lis uniquement pour la question du style. Je ne lis que la section des palmiers sauvages qui décrit l'inondation. Parce que ça, c'est un tel morceau de magnificence, de style. Mais l'autre roman, je n'ose pas m'en approcher. Flannery O'Connor m'a dit la même chose.
Si nous avons commencé à parler de Faulkner, c'est que, véritablement, il se détache, on peut dire, à s'encouder au-dessus de tous les autres écrivains américains dont nous allons parler maintenant, et qui sont pourtant des écrivains extrêmement intéressants.
Je crois qu'une dans l'attitude de ces autres écrivains, sauf les jeunes du Sud, n'est-ce pas, qui le considèrent comme la gloire de leur pays, Il y a cette idée qu'ils n'arriveront jamais. Il est là qui bloque la route. Pas que tant que le géant sera là, nous ne serons jamais que des petites ombres. Flannery O'Connor, à qui on demandait son opinion sur Faulkner, a dit « Ah, mon impression, c'est l'impression de quelqu'un qui se serait endormi sur les rails du chemin de fer quand le Birmingham Special, qui correspondrait au Mistral chez nous, arrive. » Autrement dit, la peur d'être écrasé, puis que ce soit fini.
Est-ce que vous ne pensez pas, Maurice Edgar Coindreau, que William Faulkner procède au fond de ces grands écrivains américains du XIXe siècle, comme Hawthorne et Melville, pour qui les notions essentielles, c'était des notions morales ou religieuses, c'est-à-dire la notion du bien et du mal qui se trouve, je crois, tout à fait présente dans l'œuvre de Faulkner et pratiquement dans chaque livre.
Oui, la préoccupation morale est évidente dans toutes ses œuvres. Naturellement, ce n'est pas un homme qui va moraliser dans son œuvre, mais il a suffisamment, je pense, de respect pour son lecteur, pour savoir que le lecteur saura comprendre que derrière tel événement qu'il ne décrit pas, mais qu'il laisse supposer, se cache une conception de l'humanité très nette chez lui.
Et on peut dire que la plupart de ces personnages sont saisis par le mal.
Oui, il n'a
C'est une peinture de l'enfer, vous nous dites, je crois même, dans l'une de vos préfaces.
Ce n'est pas le naïf qui croit que l'humanité est bonne, loin de là. Mais elle a des caractéristiques qui la rachètent.
Pourquoi,
par exemple, une certaine noblesse de famille, une certaine hérédité, certains principes de grandeur, de fidélité à certaines idées. Une chose qu'il faut toujours garder dans l'esprit quand on le lit, c'est qu'on pourrait classer ces personnages en deux grandes familles, ceux qu'ils symbolisent par la famille des Sartoris, qui sont les représentants des grandes familles du Vieux Sud, avec une tradition, respect de quantité d'idées ou autres, correspondant à une certaine organisation sociale, et puis le groupe des Snopes, qui sont, on pourrait dire, presque les RA qui ont envahi le Sud après la guerre de Sécession. Il est certain que la guerre de Sécession, pour lui, c'est même la date la plus importante dans l'histoire de sa société à lui, et le bouleversement qui fait que le monde Sartoris disparaît de plus en plus, et qu'il est remplacé par le monde des Snopes. Mais il n'est pas suffisamment naïf, suffisamment déshonnête pour montrer les Sartoris comme des modèles de vertu. Les Sartoris avaient les mêmes vices et les mêmes défauts que tout le monde, mais ils avaient un idéal, ils avaient des choses qui les relevaient un peu de leurs pauvres conditions humaines et qui en faisaient des gens supérieurs aux Snopes, qui eux n'ont rien du tout pour les racheter, sauf peut-être la fortune qu'ils font plus ou moins honnêtement.
Mais justement, cet envahissement par les Snopes donne ce caractère cauchemardesque, finalement, la plupart des œuvres de Faulkner.
C'est un peu comme des vagues d'assaut contre un édifice qui s'écroule.
Mais il ne semble pas que l'édifice ait en lui assez de ciment pour résister à ces vagues-là.
Non.
Je veux dire par là que la peinture du mal est beaucoup plus formidable, au sens justement fort du mot. Non, vous ne trouvez pas que la peinture de ce qui résiste?
Oui, mais à mon avis, la peinture du mal chez les Sartoris est beaucoup plus impressionnante pour moi que la peinture du mal chez les Snopes, parce qu'on ne conçoit guère les Snopes faisant autre chose que le mal. Tandis que le contraste entre les noirceurs de certains Sartoris, de certaines de ces grandes dames, par exemple, prenez Miss Emily. Je ne sais pas si vous vous rappelez l'histoire d'une rose pour Emily. Enfin, on s'aperçoit que lorsqu'elle est morte, cette vieille demoiselle a vécu et a dormi avec le squelette de son amant qu'elle avait assassiné. Mais elle fait tout de même cela en grande dame. Il est très conscient, naturellement, de la dégénérescence de certaines familles, le nombre d'idiots.
Alors là, on pense au fameux monologue de l'idiot dans Le bruit et la fureur.
Mais oui, il y a aussi la question blanc et noir. Vous pouvez remarquer que quelques-uns de ses plus beaux personnages sont des noirs, notamment Dilsé, qui est la servante sur laquelle repose toute cette maison d'années des Compson, vous savez, dans Le bruit et la fureur.
Ce qui fait que cette réputation que certains ont faite à Faulkner d'être vraiment très traditionnaliste vous paraît un peu fausse, un peu caduque.
Non, il était très traditionnaliste. Oui. Je crois qu'il avait un certain regret de voir que ces traditions disparaissaient. Mais il ne faut pas voir cela de façon étroite. Par exemple, si vous lisez les nouvelles qui sont intercalées dans le Requiem pour une nonne, vous verrez cette description pathétique des forêts qui disparaissent sous l'envahissement de civilisation, des Indiens qui sont chassés vers des petites réserves, là où ils vont mourir péniblement, etc. Tout ceci, on sent l'indignation qui bouillonne sous sa prose.
Étant donné l'audace des sujets, souvent, on pourrait y voir très facilement un nombre incalculable de symboles psychanalytiques. Alors là, je pense à la fameuse scène où, dans Lumière Doux, on voit le héros, à l'âge de 5 ans, si je ne me trompe, qui assiste à une scène assez osée et qui, pendant ce temps-là, avale son dentifrice et vomit. Et cette idée de l'acte sexuel assimilé à un vomissement, c'est aussi quelque chose qui pourrait être peut-être un peu simple. Mais en fait, tout l'art de Faulkner, c'est que précisément, on a l'impression que cela ne vient pas d'une réflexion systématique sur ces problèmes, mais bien d'une impulsion générale de lui-même.
Ce que vous dites est tout à fait vrai. Je ne sais pas du tout, du reste, si Faulkner avait des connaissances en psychanalyse. J'en doute. En tout cas, je suis certain que ça n'est pas dans les œuvres des psychanalystes que Faulkner a trouvé des idées comme celles, que, par exemple, que vous nous dites. En revanche, les psychanalystes peuvent trouver des quantités de choses dans ses romans.
Oui, et je crois que nous avons finalement plus à apprendre en lisant Faulkner sur l'âme et le cœur de l'homme qu'en lisant les psychanalystes.
Cette émission a été diffusée pour la première fois le 30 mars 1971. Vous pouvez la réécouter durant 1000 jours et la télécharger pendant un an à la page des nuits sur le site franceculture.fr.